Kiosque Magazine.
Vendredi 7 août 2015. Bonjour à tous, ici Geneviève Patterson à l'animation avec vous pour cette édition de Kiosque Magazine Culture et Loisirs. Toujours en compagnie de ma chère acolyte Jennifer Vignieri. Bonjour Jennifer.
Salut Geneviève, bonjour à tous.
Mm-hmm. Alors aujourd'hui...
Un gros programme aujourd'hui. Mmh. On va parler notamment du festival AV Montréal qui commence dès aujourd'hui. Je vous emmènerai au cinéma pour parler d'un nouveau film qui sort demain. C'est Shaun the Sheep. Et puis également en théâtre où on aura deux pièces assez marrantes. La première, c'est Toc Toc, qui est présentement à l'affiche au Théâtre de Lille. Et la deuxième, Adieu si je reste. On en saura plus en deuxième partie d'émission.
Et tu restes avec nous durant toute l'émission,
bien
Jennifer.
Évidemment.
Bien évidemment, moi aussi. Écoutez, moi, de mon côté, je vous parle de musique classique. Je vous parle également d'humour et d'improvisation. Et puis, plusieurs autres surprises. Restez à l'écoute.
Pour la sortie de son 7e album, le groupe québécois Anonymous se gâte. Il lancera Envers et contre tous en grande pompe avec un spectacle présenté dans le cadre du festival AV Montréal vendredi. Bruno Lapointe nous en parle dans le journal du 24 heures d'aujourd'hui. Pour l'occasion, le chanteur et bassiste Oscar Souto promet 45 minutes de métal pur et dur au cours duquel Anonymous fera découvrir quelques pièces de leur nouvel album, lancé le jour même. Avec Envers et contre tous, le groupe revient sur disque après une absence de 4 ans, proposant un son résolument plus heavy que leur opus précédent, Force Brute. On a vraiment travaillé fort sur les mélodies, ça rentre dedans, assure Oscar Souto. Mais malgré une facture plus agressive et bruyante, les fans de la formation québécoise reconnaîtront tout de même la signature d'Anonymous qu'ils peaufinent depuis maintenant 26 ans. On n'essaye pas de se réinventer, on aime notre style, alors je ne vois pas pourquoi on changerait, confie Oscar Souto. L'occasion sera donc parfaite pour le groupe de croiser le fer avec d'autres formations qui se produiront en spectacle au cours du week-end. Oscar Souto s'avoue particulièrement fébrile à l'idée de rencontrer les membres de Slipknot et Korn qui ont eu une influence marquante sur sa carrière. « Je suis d'abord et avant tout un fan de métal. » C'est sûr que je vais en profiter pour passer du temps avec les autres groupes. Il y a une belle camaraderie qui s'installe à l'extérieur des spectacles, explique-t-il. Le Quator effectuera donc un retour en force sur la scène du festival AV Montréal, 4 ans après leur dernière participation. L'expérience de l'édition 2011 restera à jamais gravée dans la mémoire du groupe. « J'étais excessivement nerveux », se souvient Oscar Souto. 10 minutes avant le début de notre avant notre spectacle, il n'y avait absolument personne devant la scène. Je suis allée me réchauffer et quand je suis revenue, c'était plein. Il ne cache d'ailleurs pas sa fierté de pouvoir partager la vedette de ce festival avec certains des plus grands noms internationaux de l'industrie, saluant au passage l'initiative des organisateurs de faire de la place à la scène locale. Plusieurs considèrent que la Suède est le berceau de la musique heavy metal, mais il y a de très très bons groupes au Québec, soutient Oscar Souto. Donc il va y avoir 5 spectacles qu'il ne faut pas manquer si on est fan de heavy metal. Mmh. En plus donc du groupe québécois Anonymous, le festival va accueillir d'autres grands noms de la scène metal. Donc c'est jusqu'à dimanche, je le rappelle, au parc Jean Drapeau. Donc il y aura notamment Iggy Pop, Alex Zunfar, Lambs of God, Face No More et Korn.
Merci Jennifer.
Me ne frego del mondo intero quando Federico mi ricorda gli amori dei nostri 20 anni, i dolori, casa nostra, e non si scorda degli amici sul balcone che oggi son dispersi. Ai 4:20 non eravamo poeti, neanche preti, neanche furbi, ma papà ci amava molto. Ti ricordi la domenica, intorno al tavolo, si rideva, discuteva, mentre mamma ci serviva. Ma dopo
Poi la vita ti mangia e lei t'ha divorato. Prima o poi mangia tutti e io dietro di lei. Sognavamo la fuga, sognavamo di andare, di lasciare la casa e di restare da soli. Tu hai scattato ciò meglio, mi do da grappare. Oggi tu bevi vino perché ciò fa più serio. Vedo papà che invecchia, tutto questo ci invecchia. Me ne frego del mondo intero quando Federico mi ricorda gli amori dei nostri vent'anni, i dolori casa nostra che non si scorda, degli amici sul balcone che oggi son dispersi. Ai 4:20 non eravamo poeti, neanche preti, neanche furbi, ma papà ci amava molto. Ti ricordi la domenica? Intorno al tavolo si rideva, discuteva, mentre mamma ci serviva. Ma dopo venne la festa, fu la festa più bella, fu quella degli amanti e d'urrona primavera. Poi l'autunno ritornò, quest'autunno di vita. Addio bella Arlecchino, vedi che ti ho mentito, son crollati castelli, addio chiar di luna. Alla fine dobbiamo, se vogliamo crearla, una vita tranquilla, vita da bon vivant. Me ne frego del mondo intero quando Federico mi ricorda gli amori dei nostri vent'anni, i dolori casa nostra e non si scorda degli amici sul balcone che oggi son dispersi. Ai 4:20 non eravamo poeti, neanche preti, neanche furbi, ma papà ci amava molto. Ti ricordi la domenica? Intorno al tavolo si rideva, discuteva, mentre mamma ci serviva. Ti ricordi, Federico?
Et on vient d'entendre Federico de Marco Cagliari.
Oui. Et Marco Cagliari, qui est l'ancien chanteur, membre fondateur du groupe Anonymous dont on parlait tout à l'heure.
Exactement, on en parlait il y a quelques instants. Et d'ailleurs, il y a quelques instants, Charles
est avec
son apparition.
Charles est avec nous ce matin.
Allô, moi, j'ai eu du retard, mais je suis là.
Alors, Charles, bienvenue.
Oui. Merci, tu vas nous parler de Under Pressure, tu m'as dit.
Exactement, Under Pressure au Fofone électrique, demain et dimanche 9 août 2015. Under Pressure, c'est pas seulement la chanson... Under Pressure de David Bowie, si je ne m'abuse, c'est également un festival du graffiti. C'est comme un retour dans le temps pour célébrer la définition du hip-hop des années 1980. Dans une ambiance festive où vandales, policiers et grand-mères marchent main dans la main pour la seule fois de l'année. Donc ça, c'est pour décrire l'ambiance et c'est une chronique de base, BAZ, dans le journal Métro d'aujourd'hui. C'est le 20e anniversaire d'Under Pressure, donc un des plus vieux rassemblements de graffiti intersidéral. Et puis, je tiens à préciser, les amis, que dans le journal Métro, il y a une super belle image, justement, d'un artiste de graffiti à l'œuvre. Il est en train de peindre une murale aux couleurs mauve et orange. Magnifique. Donc, Baz continue en disant « Si je me mets dans la peau d'une grand-mère de région, je me demande, en sacrament, ce que c'est un festival de graffeurs. Une célébration du vandalisme, est-ce qu'il y a le festival du vol à l'étalage, le festival du meurtre passionnel, le festival des crimes non résolus? » Donc, 20 ans que Montréal célèbre ses vandales, des vandales de toutes sortes, des vraies bombes, des bombes de coin de rue, des faux bombes, des artistes, des génies, des futurs avocats, bref, tout le monde, des médecins et des pas fiables. Le graffiti réunit des gens de tous les horizons, des jeunes surtout. Des jeunes qui veulent exister et qui se trouvent une façon de laisser leur marque. Ah, ça, c'est bien. Parce qu'écrire son nom sur des murs, c'est juste une façon de dire qu'on est passé par là. Baz was here, un crime assez bénin en soi. Alors, cette année, Under Pressure revient sur son site habituel. La ruelle derrière les faufounes électriques rassemblera des centaines de gens qui n'ont a priori rien en commun. Pour la plupart des gens qui n'ont jamais fait de graffiti de leur vie, mais qui viennent célébrer l'art et le hip-hop. Donc, breakdance, DJ, rappeurs et graffeurs s'adonneront à leur hobby favori pendant qu'amis et touristes passeront jaser de la pluie et du beau temps. Under Pressure, c'est plus qu'un festival du graffiti, c'est comme un retour dans le temps pour célébrer la définition du hip-hop des années 80. Donc vraiment, un article de base, donc pour tous ceux qui aiment l'art visuel ou une ambiance de bombe festif, eh bien, allez au Fofone électrique demain et dimanche.
Mmh.
Ben, on vient de parler de Heavy Montréal, de hip-hop. Mm-hmm. Maintenant, je vous parle de country. Josiane Desloges nous présente celui que vous... qui se présente sous le nom de Caillouche. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Est-ce que c'est le grand frère de Caillou?
Non, absolument pas.
C'est petit frère.
Quoi qu'il n'est pas très grand, donc je ne sais pas. Écoutez, c'est Josiane Desloges dans le soleil qui nous dresse ce portrait-là. Caillouche, le chatouilleur d'oreilles, c'est comme ça qu'elle le surnomme.
Amusant.
Ça a été publié le 5 août. Caillouche est l'un de ces personnages colorés et authentiques qui sont des plus intéressants en entrevue. Vous allez le voir. Le cow-boy acadien a mis son réveil pour nous parler mardi matin, question de nous piquer une jasette avant son premier passage dans la capitale aux fêtes de la Nouvelle-France. C'est la première fois que je vais dans le Vieux-Québec. J'ai hâte de voir ça, lance-t-il. Avec Johnny Como et Martin Melançon, ses complices de longue date, l'été s'écoule au rythme des festivals sur la route. Mais l'hiver, j'ai les deux pieds dans le poêle, ajoute Caillouche, établi à Maisonnette, au Nouveau-Brunswick. Bien qu'il soit né dans cette province, il a déménagé à Boston avec sa mère et ses deux sœurs à l'âge de 13 ans. Tout le monde descendait aux États pour aller travailler. Il n'y avait pas de job pantoute ici, se souvient-il. Il travaille quelques années dans les shops, puis se porte volontaire pour aller faire la guerre au Vietnam dans le US Marine Corps. Pas banal du tout, hein, le bonhomme. J'ai tiré sur personne, je suis juste allé décharger des bateaux, précise-t-il. Dans le temps, on pensait qu'on avait une cause, même si après coup, on s'est rendu compte que la cause était payable. À son retour, il se marie et il a deux enfants, mais revient seul au Canada, au tournant de la trentaine. Il vivra en nomade pendant 8 ans sur les routes canadiennes avec sa guitare et son pack-sac. Un ami lui a donné sa première 6 cordes à 15 ans. Je jouais du country américain parce que j'ai grandi avec ça. J'ai pris cette musique-là et à un moment donné, j'ai fait mes paroles avec des choses que je voyais de tous les jours, raconte-t-il. Lorsqu'il sort son album Last Call en 2003, il annonce sa retraite et prend la route de la Floride sur sa Harley. Mais dans ce temps-là, la pièce canadienne valait 61 cents américaines. Ça a mangé mon budget en tabarouette, dit-il. Ma retraite a duré un hiver. Le Rappel, son album paru en 2011, je n'ai pas encore de stock pour un autre album, ajoute-t-il, mais si j'en sors un, je vais choisir Pas encore comme titre, rigole le chanteur. Après 15 minutes d'entrevue, Caillouche lance en riant « Hey, sais-tu la fille, c'est le plus longtemps que j'ai parlé au téléphone, 15 minutes dans toute ma vie. »
Une belle autodérision chez Caillouche.
Oui, en effet. Si vous voulez voir ce joyeux personnage, il sera là au Festival de la Nouvelle-France à Québec, à la Place de Paris à 21h. Mais...
On va partir tout de suite en cinéma avec Shaun the Sheep. C'est la nouvelle pépite d'animation des studios Aardam. C'est sans dialogue et ça va vous offrir 1h30 d'irrésistibles gags visuels sur un rythme parfait. Les deux réalisateurs, Mark Burton et Richard Starzak, nous détaillent leurs influences. Jennifer Lecieux nous en parle dans le journal du Métro d'aujourd'hui. Pixar, DreamWorks, les possibilités illimitées du numérique. Rien ni personne n'inquiète Aardam. Les studios britanniques ont gardé leur taille humaine, leur âme d'enfant et leur spécificité, la pâte à modeler filmée image par image, le stop motion. Shaun the Sheep, leur nouveau long métrage modelé avec amour, confirme non seulement que cette technique vieillit bien, mais aussi que leur humour fait toujours mouche. Mark Burton et Richard Starzak, les réalisateurs, se sont visiblement bien amusés. Je pense que ça vient de notre éducation, explique Burton. On a grandi en regardant certaines émissions, des sitcoms, des comédies. Et comme vous le savez, il y a un humour particulier propre aux Britanniques qui a en quelque sorte infusé en nous. Starzak ajoute, de plus, il y avait beaucoup de dessins animés pour la jeunesse en stop motion quand on était enfant, au moins 4 ou 5 différents, et ça nous a toujours paru naturel. Shaun est apparu pour la première fois en 1995 dans « Rasé de près », le troisième court-métrage de Wallace et Gromit. Depuis, suivant le mode des spin-offs, il a été décliné en série animée et il semblait logique qu'il ait le droit à son long métrage. On a mis 2 ans à écrire l'histoire, avoue Starzac. Ça paraît long, mais on avait des idées qu'on voulait vraiment mettre dans le film. Et on savait qu'étant donné qu'il n'y aurait pas de dialogue, il nous fallait construire une histoire à la fois intéressante et pas trop compliquée, drôle et touchante. Le plus difficile, donner des expressions aux personnages, en l'occurrence aux moutons. Selon Starzac, il y a quelque chose de drôle dans l'apparence des moutons. Côté technique, 354 personnes ont été modelées par 17 animateurs pour donner... Wow. 2 secondes de film par jour. Pas de quoi décourager les réalisateurs. Burton adorerait réaliser une suite. Shaun le mouton a été ma meilleure expérience d'animation jusqu'ici, déclare-t-il. On va d'abord voir comment sera reçu le premier, mais on a déjà 1 ou 2 idées. Ça sort en salle dès demain. Shaun the Deep.
Qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe qui fumait des super slim au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur. Il se souvient de la prendre et ainsi perd son cœur. Ainsi perd son cœur. Se souvient de la prendre, se souvient de l'odeur. Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-t-il quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir le trou de son chest que lui avait laissé. Mais moi je m'ai arrêté, je regardais dedans. J'ai dit hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Tout est alright man, couche-toi. Laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en 2 temps, 3 mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Là, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en 2 temps, 3 mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Là, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. 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 Hey, qu'est-ce que c'est tu veux qu'on dise au juste? On a tombé en amour encore une fois de plus avec une fille qui fumait des clopes au milieu la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus. Mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue.
Espionne russe de Joseph Edgar. Et bon, je sais pas si les espionnes russes font du vélo, mais toi, Charles, tu fais beaucoup de vélo, hein?
Oui, oui, je fais du vélo. Et l'article dont je vais vous lire, C'est un article qui traite du documentaire Bikes vs. Cars.
Ça parle de vélo.
Exactement. Ça parle de vélo et en fait de la relation entre, sur la route entre les voitures et les vélos. C'est pas toujours facile.
Est-ce que c'est une belle relation, c'est ça?
Oui, c'est ça. Amour-haine. Mais amour-haine, mais c'est ça, ça. Ça dépend des gens, en fait. Mais vous allez voir, là, Geneviève Tremblay, dans Le Devoir, nous décrit bien ce documentaire, selon moi. Je l'ai pas vu, mais enfin, ça a été paru le 1er août dernier, La route en partage. C'est comme ça qu'elle titre son article. Dans la guerre que se livrent au quotidien la voiture et le vélo, le dialogue entre les belligérants est musclé quand il n'est pas sourd ou inexistant. En effet. Alors que le parc automobile mondial continue de croître, des bicyclettes blanches, ces fantômes de cyclistes happés sur la route, apparaissent au croisement des boulevards ou sous les viaducs. Et pas qu'à Montréal, à Sao Paulo, à Los Angeles, à Toronto, des villes où se glissent justement « bikes versus cars ». Mais comment un tel fossé s'est-il creusé? C'est la faute d'un système qui ne tient pas compte des gens. C'est une citation du film. Cette sentence vient de l'architecte brésilien Ricardo Correa, qui résume le message des activistes montré dans ce film. C'est réalisé par le Suédois Frédéric Gretten, où la parole est surtout donnée aux citoyens. À ces cyclistes dévoués qui, plutôt que de chercher un coupable, militent pour casser le modèle du « tout à l'auto » en train de diviser les citadins, alors qu'il faudrait plutôt accélérer la réinvention, dit-on. À ces pauvres en avis des experts neutres, « Bikes versus Cars » ne dresse pas un état des lieux académiques, ce qui fait plutôt sa marque et accentue au passage son penchant militant, c'est qu'il ose un double ton. Dramatique d'abord, puisqu'il fait alterner les opinions contradictoires et les statistiques déprimantes, puis légèrement comique, sorte de touche impressionniste livrée par une caméra chercheuse et une musique à l'avenant. Quand on sait les tensions vives, force est d'admettre que le message est ainsi livré en une teneur bien plus humaine. C'est d'ailleurs dans le vif du sujet qu'on nous plonge. La route bitumée, dans une voiture en plein trafic sur les 1000 km de pistes cyclables de Copenhague, même devant la résidence du maire de Sao Paulo, où des militants se sont réunis à l'appel de la blogueuse et activiste Aline Cavalcane, principale figure du film. Chaque protagoniste, qu'il soit urbaniste, professeur, chauffeur de taxi, stratège ou politicien, amène le spectateur dans son quartier, son quotidien. Si certains voyages, à Bogota et à Copenhague notamment, auraient gagné à être approfondis, le constat demeure. Au nom du danger sur les routes devant l'urgence des changements climatiques, les villes doivent faire de la place aux transports alternatifs. Donc, si ce film nous montre seulement un côté de la médaille, ben je crois qu'il vaut la peine d'être vu, puisque souvent ce côté-là est mise à muselière.
Et quand est-ce qu'on peut le voir, Charles, ce film?
Il est en salle dans certains cinémas indépendants. Si vous avez un cinéma parallèle près de chez vous en région ou à Montréal, allez-y, il va être sûrement à l'affiche.
Super! Avez-vous déjà vu des spectacles d'humour et d'improvisation, Charles?
L'improvisation comme la LNI, disons.
Ouais.
Là. Ouais,
et toi, Jennifer?
Oui, un petit medley, souvent petit medley. Dimanche. Comme je ne suis pas loin, je vais voir,
bien,
ils sont assez drôles.
Je crois que vous allez beaucoup aimer le prochain spectacle qui va avoir lieu au Collège Le Tendre à Laval le 22 août prochain. En fait, à ce collège-là se tiendra la deuxième édition de la Lille en humour, donc la Ligue d'improvisation de Laval. C'est à 20h. Et puis, le Collège Le Tendre est à deux pas de la station de métro Montmorency. Et à compter de demain, donc samedi le 8 août, les billets sont en pré-vente, oui, à 15 $, sans frais supplémentaires sur le site Eventbrite. Avec nos humoristes improvisateurs préférés, on aime les suivre. Donc, je parle, bien entendu, de Mehdi Boussaïdan, Jérémy du Temple Quirion, Richardson Zephyr, qui devrait être à l'arbitre parce que Richardson, qui est un comédien humoriste, est un gars d'impro, comme on dit. Sébastien Haché, Charles Deschamps, Anthony Rémillard et j'en passe. Donc, voilà un événement à suivre. Dépêchez-vous parce que sinon, ce sera 18 $ à la porte. Donc vraiment, et puis cet événement-là, en fait, sert de financement pour la Ligue d'improvisation de Laval. Donc pour les gens qui aiment rire, et puis la salle est multifonctionnelle, il va y avoir un bar, c'est ouvert pour tout le monde, toute la famille. Vraiment super. Et ça a très bien fonctionné les années précédentes. Là, c'est la deuxième édition. Et puis j'ai parlé avec Xavier Savard-Fournier, qui lui s'occupe des communications de la Lille. Mm-hmm. Et puis vraiment, il dit c'est...
Oui. Il t'a convaincu, c'est ça?
Il m'a convaincu. Moi, j'aurais aimé ça y aller.
OK.
Donc, je me fais la promesse que je vais y aller l'année prochaine, mais il va y avoir d'autres événements aussi de la Lille là, au courant de l'année. On peut les suivre sur leur page Facebook notamment ou aller sur leur site web. Vraiment, je reviens là-dessus concernant le site web. Vraiment, ne pas manquer l'humour, tout le monde, l'impro. Let's go!
Avant de s'en aller à la pause, il vous reste un mois, jour pour jour, les samedis et dimanches, pour profiter de l'escapade à vélo et croisière. Vous pouvez transformer votre randonnée à vélo en grande aventure en utilisant la navette fluviale pour traverser le fleuve jusqu'au parc national des îles de Boucherville pour y poursuivre votre balade à bicyclette. L'embarquement se fait les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés à la promenade Belle-Rive, alors que la navette vous mène directement au parc national. Il faut compter 8,50 $ pour l'aller-retour en navette. Notez que la traversée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. Prévoyez également 8,50 $ pour adultes pour l'accès au parc national des îles de Boucherville. L'accès au parc national est gratuit pour les 6 ans et moins, tandis que l'accès pour les 6 à 17 ans est gracieusement offert par la CEPAC. Donc, c'est jusqu'au 7 septembre si vous voulez vous promener à bicyclette.
Et Charles, tu aimes beaucoup le vélo? Moi, j'aime beaucoup l'humour. Je tiens à préciser, j'ai trouvé l'adresse du site web pour la Lille. C'est le www.improlille, donc improlille.com.
Merci Geneviève.
Merci à toi Charles aussi.
Kiosque Magazine.
Toujours sur votre émission Kiosque Magazine, on est de retour pour la deuxième partie de l'émission et on va commencer cette deuxième partie avec du théâtre, avec la pièce Toc Toc qui est présentement à l'affiche au Théâtre de Lille. Côtoyer quelqu'un aux prises avec un trouble obsessionnel compulsif, donc ce qu'on appelle plus communément le TOC, est déjà quelque chose de compliqué. Mais alors imaginez maintenant ce qui peut se passer lorsque 6 personnes souffrant chacun d'un TOC différent venu consulter, se retrouve coincé dans une salle d'attente.
Oh là là.
C'est ce que les spectateurs vont voir dans cette fameuse pièce. La comédie française Toc Toc, écrite par Laurent Baffy, a déjà amusé une foule de spectateurs des deux côtés de l'Atlantique depuis sa sortie en 2005 au Palais Royal à Paris. C'est toutefois une adaptation québécoise qui est présentée au Théâtre de Lille. « Nous sommes à la limite de vaudeville », lance la comédienne Chantal Richer, qui interprète Marie, qui souffre d'un TOC qui l'oblige à tout vérifier de 20 à 30 fois par jour. Elle a peur d'oublier de barrer sa porte et vérifie tellement de fois qu'elle en vient à ne plus pouvoir sortir de chez elle. C'est son médecin de famille qui lui suggère de rencontrer le docteur Stern, un spécialiste de renommée mondiale des troubles obsessionnels compulsifs. Il est une sommité dans le milieu, révèle la comédienne. Il peut débloquer le trouble obsessionnel de quelqu'un en une seule rencontre. Ainsi, on retrouvera Marie et 5 autres patients atteints d'un TOC venus rencontrer l'éminent spécialiste. Alors que les patients attendent leur tour, voilà qu'ils apprennent par l'entremise de sa secrétaire que le docteur Stern se retrouve coincé à New York. Son vol a été retardé en raison d'une alerte à la bombe. Les 6 patients qui souhaitent guérir de leur malaise respectif, les qui ont attendu près d'un an pour ce rendez-vous, se résigneront à attendre l'arrivée du docteur.
Pour combler le temps, il décide de jouer au Monopoly, jeu de société ayant été laissé bien en vue dans la bibliothèque. Excusez-moi, petit... Hop, voilà. C'est mon toc à moi. Voilà. Peu à peu, les six patients atteints d'un trouble mental se feront des confidences sur leur toc. On découvrira Fred, victime du syndrome Gilles de la Tourette. Il lance continuellement des obscénités, fait savoir la comédienne qui a joué dans une trentaine de productions au Théâtre de Lille. Il y aura également Vincent, atteint d'arythmomanie, un chauffeur de taxi qui compte continuellement, et Blanche qui souffre de la phobie des microbes et qui doit constamment se laver les mains. Bob, obsédé par la symétrie et qui est incapable de marcher sur les lignes du plancher. Six fous réunis, c'est forcément très drôle, confie Chantal Richer. Mais les patients atteints d'un TOC, quoique névrosés, ne sont pas si fous que ça. Outre leur propre obsession, ils sont aptes à analyser celle des autres. Reste à savoir si l'éminent médecin finira par intervenir et soigner ses patients. C'est principalement une comédie de situation qui, de plus, fait rire, mais fait aussi réfléchir. Donc je rappelle que l'auteur de cette pièce est Laurent Baffy et que vous pouvez voir ça au Théâtre de Lille. C'est à l'affiche jusqu'au 29 août.
Cœur migratoire.
Catherine Durand avec Cœur migratoire, une chanson qui a été écrite par Tristan Malavoie, un ancien chroniqueur littéraire au journal Voir. Et puis là, Charles, tu nous parles d'une exposition sur l'avenue du Mont-Royal.
Oui, exactement. Maintenant, on s'en va dans le Devoir. C'est un texte écrit par Jérôme Delgado le 5 août. Alain Chagnon, un marin très attaché à son port. Eh bien, c'est une exposition que vous pourrez voir dès maintenant jusqu'à l'automne sur la vie de quartier qui se passait il y a quelques années sur l'avenue Mont-Royal. Il est arrivé à la photographie, le photographe, en même temps que sur le plateau Mont-Royal, il y a plus de 40 ans. Il est encore photographe et résident du plateau. C'est avec fierté qu'il expose chez lui, en plein sur le trottoir de l'artère centrale de son quartier, l'avenue Mont-Royal. Alain Chagnon a toujours voulu redonner aux gens ce qu'il tirait d'eux. L'exposition « Vie de quartier », présentée jusqu'au 30 octobre, rassemble 53 photographies noires et blancs, triées de son corpus réalisé entre 72 et 86. Elle représente le plateau Mont-Royal sous des jours variés, sous des visages différents. Des fêtes de la Saint-Jean côtoient des portraits de commerçants, d'un côté de la rue des hommes de la taverne et de l'autre des enfants déguisés et fumeurs. Dispersées sur 2 kilomètres entre les rues de Bullion et Folhom, les images grand format respirent le retour d'ascenseur. Celui appliqué par Chagnon est consort versé dans la photographie dite sociale. Photographe autodidacte, Alain Chagnon fait partie de cette génération qui a documenté le Québec de tous les jours, le Québec des classes populaires. Le travail des Roger Charbonneau, Jean Lauzon, Claire Beaugrand-Champagne et autres reçoit depuis peu une belle reconnaissance. L'emblématique série La Taverne, portrait des clients de la Taverne de Paris, l'actuel bistrot de Paris sur Saint-Denis, accueille ceux qui commencent la visite dans le métro. C'est cette série qui lance la carrière d'Alain Chagnon, d'ailleurs. Si l'expo s'arrête en 86, ce n'est pas parce que le Longueuilois de naissance a accroché son appareil. Citation. « On dit que le marin s'éloigne de son port. Ses photos précèdent ce départ, dit-il. Elles sont la période où j'ai le plus travaillé sur le plateau. Après, j'ai fait l'Afrique, le Nicaragua, les États-Unis, l'Asie. Le marin, il a fait son Christophe Colomb. Les années ont changé son apparence, barbe bien fournie en moins, lunettes en su. Mais Alain Chagnon reste le même. Un photographe enraciné dans le plateau, animé par la rencontre des autres, et le temps est précieux. Lui espère suffisamment d'années pour pouvoir compléter une série sur le quartier de Grifftown, entamée il y a 2 ans. Il visite les résidents chez eux et prend des photos. Il admet travailler encore à l'ancienne, sans ordinateur, avec des planches contact et des maquettes en carton. Il préfère le papier à l'écran pour évaluer le contraste du noir et blanc. Il dit que l'impression numérique n'est pas la même chose que l'impression argentique. Il ne faut pas qu'il y ait du détail dans le noir. Il ne faut pas que les pantalons soient gris. Il dit que ça rappelle les tavernes sombres, le fait que... Il y a moins de contraste dans la photo.
À suivre, même, il va y avoir l'exposition après, tu dis, sur Griffintown. Super.
Ouais, exactement. Donc, à suivre.
Et puis, on continue en musique cette fois. Le festival OSM offre une virée classique. C'est un article qui a paru dans le journal 24 heures d'hier. En fait, il y a des grands concerts gratuits et en plein air qui sont sous la direction de Kent Nagano. Il y en avait un ce mercredi dernier sur l'esplanade financière Sun Life du Parc olympique. Et puis, ben, le festival OSM virée classique se poursuit aujourd'hui et demain, donc samedi 8 août, à la Place des Arts. La virée OSM virée classique, c'est quoi? Eh bien, c'est 30 concerts de 45 minutes à prix modique, donc on parle de prix variant entre 10$ et 40$ taxes en su. Une foule d'activités gratuites pour les mélomanes et néophytes, plus de 200 musiciens sur place et la participation de plusieurs grands noms de la musique classique. Donc on peut y faire des rencontres privilégiées avec les artistes, de même qu'un volet qui sera plaire à toute la famille. Donc les habitués le savent, OSM Virée Classique, c'est une fête incomparable. À la Maison symphonique de Montréal, comme dans les salles et les espaces d'animation de la Place des Arts, les familles et les mélomanes, oui, de tout acabit, pourront cette année encore dessiner le parcours de leur choix afin de découvrir et d'apprécier le talent des musiciens d'ici et d'ailleurs.
Avec une édition 2014 qui a accueilli 25 000 personnes, la virée classique est rapidement devenue un rendez-vous incontournable. L'événement va être cette année à sa 4e édition et prendra l'allure d'un voyage musical qui va transporter le public aux quatre coins du monde, donc de l'Espagne à l'Italie, de la France à l'Allemagne, avec des incursions en Chine et en Inde. Quelle belle diversité et variété internationale! Donc, et puis il y a également à la place, en fait non ici, Vie urbaine des rencontres internationales du documentaire de Montréal, le mardi 11 août prochain, on pourra assister à la projection de Sol de Marie-Hélène Cuisineau et Suzanne Avingac, oui, au Parc Saint-Gabriel, donc c'est à la station de métro Charlevoix.
Super.
Merci.
Belles activités tout le monde.
On se transporte maintenant à Gatineau, où Paul Gabouri, dans le droit, nous parle de son article « Du nouveau dans le ciel comme sur terre ». Ça a été publié le 15 juillet. Ça parle de quoi? Ben, des grands feux du casino lac Lémi, qui seront de retour sur les berges de la rivière des Outaouais. Ça, c'est juste derrière le Musée canadien de l'histoire. Il sera là, cette activité, pour offrir 5 soirées de spectacle pyro-musical à compter de demain jusqu'au 22 août. Cette année, les spectacles mettront en vedette, oui, 4 équipes. Celle de l'Espagne demain, la Belgique le 12 août, de la Grèce le 15 août et du Venezuela le 19 août. Il y aura aussi une grande finale le 22 août. Sur les divers sites de la région, plus de 300 000 spectateurs sont attendus pour vivre l'expérience des grands feux cette année, a expliqué Pierre Cuguen, le responsable des communications et du marketing. Le directeur artistique, lui, Alain Saint-Jean, qui en est à sa 6e participation, a concocté une programmation où se mêleront, à compter de 18 heures, des spectacles musicaux, de la danse multiculturelle de différents pays et des arts de la rue, avant les premières bombes et après les spectacles pyrotechniques. Les frères William et Vincent Poliquin-Sims, qui ont collaboré avec le Cirque du Soleil et Robert Lepage, présenteront de l'acrobatie humoristique et de la danse verticale, un spectacle offert en démonstration lors du dévoilement de la programmation hier matin au Musée canadien de l'Histoire. Bon, le chanceux, il a pu le voir en primeur. Les amateurs de musique pourront également entendre des artistes de divers horizons, dès 20h30, puis à 21h45 à la scène du bistrot SAQ. Il y aura The Soul Sisters demain, Funkatron 5000 le 12 août, Les Sociables le 15 août, Miguel de Armas Latin Jazz Quartet le 19 août et André Varin le 22 août. La zone familiale de Brigil occupera une place plus importante avec des structures gonflables, des jeux de société, du maquillage, des tatouages, etc. Radio-Canada a même mis en place un jury jeunesse composé de 3 jeunes de 13 à 16 ans qui siégeront comme jury des grands feux. Bon, wow. Voilà. Il y aura aussi un disco silencieux dans la zone belle qui permettra de danser sur des rythmes variés. Vous devez cependant apporter vos écouteurs. Ça doit être très drôle à voir de l'extérieur.
Ouais, un super événement, vraiment.
Voir les gens qui dansent comme ça. Alors, voilà, c'est jusqu'au 22 août, je le répète, c'est à l'arrière du Musée canadien de l'Histoire, à Gatineau.
La belle étoile, je m'approche sur la pointe des pieds pour ne pas être aperçu, pour ne pas vous déranger. Je mets mon trépied sur la terre, je pointe mon télescope vers les cieux pour connaître votre univers, pour voir les étoiles dans vos yeux. Voyez-vous que je vous vois, c'est moi le voyeur planétaire, votre planète est ma proie. Voyez-vous que je vous vois, je suis un voyeur, vous êtes une planète, vous êtes ma proie. Le ciel est si clair ce soir, comme une fenêtre sans rideau. Je suis un espion de l'espace, et je vois tout le mouvement là-haut. Avec ma paire de longue vue, je vous regarde comme je veux. Dans votre douche d'étoiles filantes, quand vous vous lavez les cheveux, voyez-vous que je vous vois? C'est moi le voyeur planétaire, votre planète est ma proie. Voyez-vous que je vous vois? Je suis un voyeur, vous êtes une planète, vous êtes ma proie. Les astres s'allument, dehors je sors vous surveiller. J'aime voir votre état naturel, loin des villes trop illuminées. Oh, avec mon canon de vision, des coups d'œil, je vais vous lancer. Préparez-vous pour l'explosion, votre corps céleste est visé. Voyez-vous, je vous vois, c'est moi le voyeur planétaire, votre planète est ma proie. Voyez-vous que je vous vois? Je suis un voyeur, vous êtes une planète, vous êtes ma proie. Je suis un voyeur, vous êtes une planète, vous êtes ma proie. Je suis un voyeur, vous êtes une planète, vous êtes ma proie. Badidadidadidom, badidadadadadom, bibidibodobodobodom, zabadadadadadom.
Et c'était Damien Robitaille, le voyeur planétaire originaire d'Ontario. Maintenant, on poursuit en théâtre, Jennifer.
Exactement, on poursuit en théâtre et c'est Fou rire assuré. En tout cas, c'est Louise Bourdonnais qui titre son article comme ça. Car pour elle, dans le Journal de Montréal du vendredi 31 juillet, car pour elle, on ne pouvait trouver meilleure comédienne que les deux têtes d'affiche Pierrette Robitaille et Anne Casabonne pour se donner la réplique dans la pièce « Adieu, je reste ». Non seulement la pièce de l'auteure française Isabelle Mergault est drôle, mais le talent des deux actrices ajoute par leur excellente prestation au plaisir. Le duo du tonnerre est plus que regardé par les spectateurs captifs tout au long du spectacle et a su engendrer de nombreux fous rires. Même s'il est question d'une tentative de suicide, la pièce « Adieu, je reste » présentement à l'affiche au théâtre Hector Charland est certes un excellent antidépresseur. Les deux femmes colorées et pourtant si différentes l'une de l'autre parviennent en un rien de temps à dérider une salle comble, si bien que les spectateurs sont sortis du théâtre affichant un large sourire. L'excellente adaptation de Maryse Warda nous fait oublier qu'il s'agit d'une pièce française. Elle nous transporte plutôt dans un environnement bien québécois où les situations rocambolesques combleront cette histoire aux nombreux revirements. À partir du moment où Anne Casabonne entre en scène, interprétant Gigi, le ton sera donné et les rires se feront entendre. Gigi, cette fille au langage simple, dépourvue d'intelligence, semble avoir perdu quelques neurones en cours de route. C'est que la pauvre Gigi se fait manipuler par son amant Jean-Charles, joué par Claude Prégan, un homme lâche et monstrueux. Par amour pour lui et dans l'espoir que sa relation puisse s'épanouir, elle acceptera de tuer sa femme, Barbara, une célèbre romancière un brin hautaine, magnifiquement interprétée par Pierrette Robitaille. Le soir où Gigi débarquera chez Barbara, revolver à la main, pour remplir la commande de son amant, elle aura la surprise de se trouver nez à nez avec une femme n'offrant aucune résistance.
c'est que Barbara, dépressive, alcoolique et aux idées suicidaires, a décidé de passer à l'acte le soir même où elle devait être tuée. Déstabilisée, Gigi aura du mal à se rendre au bout de sa mission. Malgré la surdose de médicaments, on verra que Barbara est intelligente et aussi drôle que sa rivale. Semblables à deux clowns sur scène, les deux femmes sauront mettre leurs talents en valeur. La brillante mise en scène de Stéphane Bellavance, sous la direction artistique d'André Robitaille, a fonctionné. Évidemment, on pourrait se questionner à savoir pourquoi aucune des deux femmes ne s'est rendue compte qu'elle avait affaire à un escroc de la pire espèce. En plus d'être un peintre raté et sans le sou, Jean-Charles est manipulateur, menteur et profiteur. Il souhaite mettre la main sur la fortune de sa femme, de surcroît, il entretient une relation avec une troisième femme. Mais peu importe le fond, nous sommes dans une comédie de boulevard qui remplit sa mission. Heureusement, un téléphone cellulaire oublié fera en sorte que celui qui voulait prendre sera pris. S'ajoute à la distribution Stéphane Breton, un voisin encombrant, qui pourtant porte bien son rôle. Si l'idée de vous faire raconter une histoire bâtie autour d'un traditionnel triangle amoureux ne vous fait plus rire, sachez qu'il s'agit aussi d'une belle pièce sur l'amitié qui peut s'installer entre deux femmes, même si celles-ci auraient eu toutes les raisons du monde à devenir les pires rivales. Je rappelle donc la pièce, c'est Adieu, je reste, et c'est à l'affiche jusqu'au 29 août au théâtre Hector Charland, L'Assomption.
L'humoriste François Mascotte va offrir un spectacle bénéfice au profit des enfants de 0 à 5 ans placés sous la loi de la protection de la jeunesse. Donc, il est le porte-parole, je rappelle, de la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal. L'événement se tiendra le jeudi 13 août prochain. L'ouverture des portes est à 19h au cabaret du Lion d'Or, donc au 1676 rue Ontario-Est. Les billets sont en vente au coût de 40 $ taxes et frais de transaction ensuite en admission générale. Pour plus d'informations, on rejoint Karine Cloutier dans le 514-593-2190. Une petite brève qui est apparue dans le journal local Le Flambeau.
Je vous parlais de Caillouche en début d'émission. Eh bien, il fera partie de la programmation des fêtes de la Nouvelle-France. C'est quoi cette fête-là? C'est une fête qui parle de l'histoire du Québec. Et cette année, c'est le fleuve qui sera mis en valeur. Mmh. Et c'est à la fois une source de nourriture, d'énergie et de route d'exploration maritime. Et le fleuve joue encore aujourd'hui un rôle de premier plan et reste le principal moyen ayant permis le peuplement québécois. Un hommage donc à notre fleuve Saint-Laurent. C'est jusqu'à dimanche. Profitez-en bien et c'est dans notre capitale.
Le Bel Âge d'Anjou souhaite un très bon été à tous ses membres et rappelle qu'il y a des pratiques de danse tous les jeudis soirs de 19h à 21h15 jusqu'au 27 août au Centre Roger Rousseau. Par ailleurs, il y a un voyage à la baie géorgienne qui est organisé du 24 au 30 août. Pour information, contacte Cécile dans le 514-355-9385 ou au Bel Âge Anjou, donc Bel Âge tout collé ensemble, Anjou, à commercial.yahoo.ca.
La ville de Montréal présente une exposition de photographies de l'artiste mexicain Alejandro Durand intitulée « Watch Up, Transforming a Trash Landscape », donc transformer un paysage saccagé, dans le quartier des spectacles. Ces photos traduisent les préoccupations environnementales de cet artiste engagé qui s'inquiète des déchets transportés par les courants océaniques jusque sur les rives de la réserve fédérale mexicaine, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À partir de déchets échoués sur ces rives provenant d'une cinquantaine de pays, Alejandro Durand crée des paysages fantastiques qui font réfléchir.
Inusité et amusant, Le Griffe, c'est le grand rendez-vous international du film félin, est de retour pour une seconde édition. Pour l'occasion, la SPCA convie les citoyens à assister à la projection des meilleures vidéos portant sur la thématique du chat, ainsi qu'à participer aux activités éducatives qui précéderont. C'est à la place Shamrock, dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, demain le 8 août de 16h à 20h. Il me reste tout juste le temps de remercier Mathieu Tessier à la régie,
merci,
ainsi
Mathieu,
que Jennifer Vignery, Geneviève Patterson. Je m'appelle Charles Roy. On se retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Pour une
à
autre
bientôt
édition
tout le monde.
De Kiosque
Bonne
Magazine.
Fin de semaine à
Bonne
tous.
Fin de semaine.
Bye.